Genèse 25, 11. Isaac, elle s'est mariée avec Rebecca. Il a été consolé ainsi de la mort de sa mère. Abraham s'est remarié. Il a eu d'autres enfants et puis Abraham est décédé. Et verset 11, Genèse 25, 11, il est dit « Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lachaïroï. » Et puis verset 19, « Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam-Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. » Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher à s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite, sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » Et c'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Et Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. » Et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur !» Car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimélec fit appeler Isaac et dit, « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimélec dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. » Alors Abimélec fit cette ordonnance pour tout le peuple. « Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveaux puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent des puits, un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Ézec parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Réoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimélech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzath, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit « Pourquoi venez-vous vers moi ?» Puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous. » Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons fait point, que nous ne t'avons point maltraité, que nous ne t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent, et ils se levèrent de bon matin, et ils se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'ils creusaient, et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau !» Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Un long passage, mais qui nous parle sans cesse de la bénédiction de Dieu sur Abraham qui se transmet sur Isaac, son fils. Je ne sais pas vous, mais quand on vient à Christ, on a vraiment ce désir d'être béni. On s'attend à être béni, n'est-ce pas ? Les évangéliques dénoncent un certain évangile de prospérité qui laisse croire que si on croit en Jésus-Christ, on va devenir riche, on va être nécessairement en bonne santé et puis on va être heureux en couple ou en famille. Ce n'est pas la réalité. Il y a plusieurs arguments bibliques qui nous laissent penser que ce n'est pas le cas. On est encouragé au contentement d'abord, à se satisfaire de ce que Dieu nous donne, et pas rechercher à s'enrichir sans cesse. On voit que, et c'est 2 Timothée qui le dit, que ceux qui cherchent à s'enrichir se jettent dans bien des tourments. Et c'est souvent effectivement le cas. Regardez dans les histoires dans la Bible, on trouve par exemple le jeune homme riche qui s'en va tout triste et il se jette dans bien des tourments. Un riche insensé qui pense qu'à augmenter ses greniers pour amasser et amasser encore. Et puis, la nuit même, il est repris et il se jette dans bien des tourments. Ou encore, cet homme riche qui avait fermé son cœur à ce pauvre Lazare, qui lui aussi se retrouve dans bien des tourments. Jésus lui-même ne possédait rien. Il a été crucifié, si ce n'est pas le comble. Et puis, on l'a enterré dans le tombeau d'un autre. Et puis, il nous appelle, lui, à nous charger de sa propre croix, et de notre croix, et à le suivre. Aussi, on est encouragé à amasser un trésor dans le ciel, pas sur cette terre. On a aussi des frères qui sont persécutés à cause de leur foi, et pourtant, leur foi en Christ est assurément plus ferme que la nôtre. Et Dieu dit dans sa parole, en 2 Timothée, que si quelqu'un veut vivre pieusement en Jésus-Christ, il sera persécuté. Et puis on a aussi des frères qui vivent dans un grand dénuement dans le monde. Et pourtant, il est incontestable que leur foi en Christ est ferme et souvent bien plus grande que la nôtre. Alors la bénédiction de Dieu, c'est quoi ? Parce que néanmoins, On y aspire tous. On était à un mariage hier après-midi et plusieurs prières ont été élevées vers le Seigneur pour que la bénédiction de Dieu vienne sur ce couple. Et nous aussi, on est à la recherche de cette bénédiction. On cherche, au fond, dans la foi en Jésus-Christ, un certain bénéfice. Et en effet, c'est une grande source de gain, dit la Bible, que la piété avec le contentement. Et puis, puisque nous sommes héritiers d'Abraham et d'Isaac et de Jacob et des autres, selon la promesse, quelle bénédiction devrions-nous attendre ? Quelle bénédiction devrions-nous attendre ? Ce matin, je vous propose de voir que la bénédiction, ça n'est pas l'absence d'épreuves. Que la bénédiction, c'est le choix divin. Et par choix divin. La bénédiction vient de l'obéissance d'un autre. La bénédiction est malgré nous. La bénédiction est dans l'opposition. Et enfin, on verra que la bénédiction, elle doit être reconnue et partagée. Alors d'habitude, j'ai 3 points pour un chapitre. Là, j'en ai 6 pour 2. Première chose, la bénédiction, ça n'est pas l'absence d'épreuves. Regardez Isaac. Nous est dit clairement, chapitre 25, verset 11, il a été béni de Dieu. Dieu le bénit. Verset 20, on apprend que Isaac, la femme d'Isaac, est stérile. Et si vous faites le calcul avec le verset 26, Rebecca a été stérile pendant 20 ans. Vous pensez à la bénédiction de Dieu ? Elle est prononcée par Dieu lui-même. Et qu'est-ce qui se passe ? Sa femme est stérile. Lui qui est héritier de la promesse d'Abraham, celui qui devrait recevoir une multitude d'enfants, une postérité, sa femme est stérile. Alors non, la bénédiction de Dieu, ça n'est pas l'absence d'épreuves. Et puis, finalement, elle tombe enceinte. Mais quand elle est enceinte, qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, j'ai des douleurs, pas possible, parce que les enfants se heurtaient dans son sein. Et le mot pour heurter, c'est vraiment bagarre. C'est pas juste des petits coups de... Non. Et elle dit, mais à quoi bon être enceinte alors ? Si j'ai imploré Dieu pour être enceinte. Et maintenant, voilà que c'est la catastrophe dans mon sein. Les jumeaux, habituellement si complices, se livrent la guerre avant même la naissance. Qu'est-ce que c'est que cette bénédiction ? Regardez nos sujets de prière. On les imprime chaque mardi. Vous allez voir, on va prier pour tout un tas de gens qui sont malades, tout un tas de gens qui sont en difficulté, tout un tas de gens qui cherchent un travail. Si la bénédiction, c'est l'absence d'épreuves, alors ce n'est pas celle en tout cas que Isaac a reçue. Et ce n'est pas celle que nous avons reçue non plus. Non, la bénédiction, ça n'est pas l'absence d'épreuves. La bénédiction, c'est que Dieu entend nos prières. La Bible dit ici que Isaac implora l'Éternel et l'Éternel a répondu à sa prière. Rebecca est devenue enceinte. Les jumeaux se sont bagarrés dans son sein. Elle a imploré l'Éternel. Et l'Éternel lui a fait connaître que les coups dans son ventre annonçaient l'antagonisme qui régnerait entre ces deux nations issues de ces jumeaux. Ce qui est à la fois une souffrance et à la fois une glorieuse espérance de savoir qu'il y aura deux nations qui vont naître de sa postérité. Alors, oui, Dieu peut vous bénir. Et il va le faire. Mais sa bénédiction, ça n'est pas l'absence d'épreuves, mais c'est Dieu qui répond à nos prières. Et puis la bénédiction, elle est par choix divin. Vous avez vu ces versets, dans les versets 23 à 34. Avant la naissance des jumeaux, Dieu a fait savoir que le plus grand serait assujetti au plus petit. Et ça par une élection souveraine. Dieu déclare que la lignée promise se fera par Jacob et non par Ésaü. En Romains chapitre 9, verset 11, il est dit « Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. » Et là, il y a une vérité importante pour nous. C'est que la bénédiction de Dieu, la bénédiction qui repose ici sur Isaac, pardon, sur Jacob, ici, cette bénédiction, il ne la doit pas à l'ordre naturel. C'est-à-dire, il n'est pas l'aîné, donc il ne devrait même pas être héritier de la promesse. Cette bénédiction, il ne la tient pas non plus de la volonté humaine, c'est-à-dire que ce n'est pas son père qui l'a dit. Ce n'est pas sa mère qui a déclaré, c'est mon chouchou, mon préféré, je veux qu'il hérite de la promesse. Ce n'est pas Jacob même, mais c'est Dieu qui l'a établi ainsi. C'est un choix de Dieu. Et les raisons de ce choix ne nous sont pas données, elles nous dépassent. À l'époque patriarcale, c'était contraire à la coutume. Le premier-né jouissait de la préséance dans la famille, et à la mort du père, il recevait une double portion de l'héritage, et il devenait chef de la famille. Alors, lorsque Jacob offrit à Ésaü du potage en échange de son droit d'aînesse, de façon insensée, il a accepté la proposition. Et Dwight Moody, l'évangéliste, a dit « Aucune nourriture, à part le fruit défendu, n'a été aussi chèrement payée que ce bouillon. » Dieu, il n'approuve pas les ruses de Jacob. Néanmoins, il est clair que Jacob tenait au droit d'aînesse et à une position dans la lignée fidèle, tandis qu'Ésaü préférait assouvir ses appétits physiques que de recevoir les bénédictions spirituelles. Ésaü, il est appelé le profane en Hébreux 12, c'est-à-dire celui qui ne tient pour rien les choses de Dieu. Et vous savez quoi? L'homme naturel ne tient pour rien les choses de Dieu. Il n'est pas attiré par les choses de Dieu. C'est la bénédiction. C'est le choix divin qui nous porte à désirer les choses de Dieu. Et on voit donc ici que l'élection entraîne aussi les dispositions du cœur. Les deux sont des pécheurs et les deux agissent mal. Mais l'un désire la bénédiction et l'autre la méprise. Jacob ne doit pas sa bénédiction à autre chose qu'au choix de Dieu. Et du coup, il peut juste reconnaître simplement, c'est par grâce, c'est la grâce de Dieu qui m'a favorisé. Et pour nous, il en est ainsi, la bénédiction, c'est véritablement d'appartenir à Dieu. La bénédiction, c'est d'être choisi par Dieu. Et puis la bénédiction vient de l'obéissance d'un autre. Vous avez remarqué dans le chapitre 26, le début du chapitre, la même histoire était arrivée à Abraham, et d'ailleurs c'est mentionné dans le verset 1 ici. Il y a une famine, et Isaac emmène toute la famille, direction de l'Égypte. Mais il s'arrête et fait une pause à Guérar. Guérar, c'est encore le pays de Canaan, c'est du côté chez les Philistins, vers Gaza. Et il s'installe là. Et Dieu lui apparaît à ce moment-là et lui dit « Ne va pas plus loin, reste ici. Reste ici en Canaan encore. » Et regardez ce qu'il dit. Versets 3 et 4. « Je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Et pourquoi? Verset 5. « Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordonnances, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Je te bénis, pourquoi ? À cause d'Abraham, ton père. Ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de l'obéissance d'un autre. Et puis là, on commence à réfléchir à Abraham. On dit, mais attendez, il est dit ici, il a obéi à ma voix et il a observé mes ordonnances, mes commandements, mes statuts et mes lois. On a l'impression qu'Abraham, il n'a fait que ça. Et pourtant, quand il était à Guérar, au même endroit, il a dit, Sarah, c'est pas ma femme, c'est juste ma sœur. Comme ça, c'était juste de la lâcheté. C'était méprisant à l'égard de Sarah, c'était injuste, c'était un mensonge. Elle était premièrement sa femme. C'est quand même bizarre. Pourquoi est-ce que Dieu dit « Je te bénis, Isaac, à cause d'Abraham et de l'obéissance d'Abraham » et que nous, on sait par ailleurs qu'Abraham, il n'a pas toujours obéi. En fait, c'est parce que lorsque Dieu regarde Abraham, il voit aussi la justice d'un autre. La bénédiction d'Abraham, d'Isaac, la nôtre, c'est une bénédiction qui est imputée, offerte par grâce à cause de l'obéissance de Jésus-Christ. Et si aujourd'hui on peut être béni, ça n'est pas à cause de nous, mais seulement à cause de Jésus-Christ. Et regardez ce que dit Éphésiens chapitre 1er. Je vous lis quelques versets. Éphésiens chapitre 1. Verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, en Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, etc., etc. Toutes les bénédictions qui sont les nôtres, nous les possédons à cause de Jésus-Christ, en Christ, à cause de l'obéissance de Jésus-Christ. Cette obéissance nous est imputée. Et quand Dieu nous regarde, il ne voit pas nécessairement des gens très obéissants, mais il voit Jésus-Christ parfaitement obéissant. Et c'est pour ça que sa bénédiction nous est accordée. Même si Dieu veut notre obéissance, nous devons nous rappeler qu'il n'existe qu'un seul et qui est parfaitement obéi à Dieu en toutes choses, et c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas notre obéissance qui mérite la bénédiction, mais la sienne. Toutes les religions disent « J'obéis, alors je suis accepté de Dieu. » Et on doit faire plein de choses pour pouvoir être accepté de Dieu. Mais l'Évangile dit « Je suis accepté de Dieu » par la grâce, à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Donc, j'obéis. Quatrièmement, la bénédiction, elle est malgré nous. Vous avez vu les versets qui suivent, versets 7 à 12. Isaac, il obéit, il reste à Guérar d'abord, et puis il s'y installe. Et puis, finalement, il a reçu cette promesse, cette bénédiction qui lui a été à nouveau rappelée. Dieu lui est apparu. Et puis, il est quand même dans la crainte. La bénédiction de Dieu devrait engendrer dans nos vies l'obéissance. Mais ça n'est pas toujours le cas. Et ici, selon une vieille coutume, selon une certaine lâcheté familiale, on pourrait dire, quand on interroge Isaac sur sa femme, fort belle, il répond, craignant pour sa vie, « C'est ma sœur ». Mais il se fait surprendre, alors que le roi Abimélec regarde par la fenêtre, il se fait surprendre en train de plaisanter avec Rebecca. Ici, c'est le genre de plaisanterie qu'on ne fait qu'avec sa femme. Voyez ? MacArthur, il commente, il les vit en train de se caresser, preuve qu'ils étaient bien mariés. Et c'est exactement ce qui s'était produit plus de 75 ans auparavant, avant la naissance d'Isaac, avec Abraham et Sarah, également à Guérar, également avec un certain roi, Abimélec. Et là, Abimélec avait repris également Abraham en lui disant « Mais qu'est-ce que tu nous as fait ? Ça aurait pu être catastrophique !» Il dit « C'est ta femme !» Et puis il a fait venir Sarah, et puis il a donné plein de cadeaux à Sarah. Et puis il dit « Voilà, tout ça, je le donne. » Et j'aime la Bible parce que c'est plein d'humour. Il dit « Je donne tout ça à ton frère. » Sous-entendu à Abraham. Tu m'as trompé, je donne ça à ton frère. » La bénédiction était sur Abraham malgré sa lâcheté. Elle repose sur Isaac malgré son côté craintif et sa faible confiance dans la promesse de Dieu. Dieu nous bénit, non pas à cause de notre fidélité, mais à cause de la sienne. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Si la bénédiction dépendait de son intégrité, de sa fidélité, de son courage, Isaac n'aurait pas prospéré de la sorte. Et pour nous, c'est ainsi. Si la bénédiction qui repose sur nos vies devait dépendre de notre obéissance, de notre fidélité, on ne serait pas béni. Mais Dieu a choisi de nous bénir à cause de Jésus-Christ et malgré nous. Dieu nous bénit malgré nous, de sorte que la bénédiction témoigne du caractère de Dieu, bien plus qu'elle décrit le caractère des hommes bénis. Elle célèbre la grâce de Dieu, bien plus que la fidélité des hommes. Et j'aime cette pensée-là. Ce que Dieu fait dans notre Église, sa bénédiction, ce n'est pas à cause des hommes, c'est à cause de Dieu. Ça ne parle pas de notre fidélité, de notre engagement. Ça parle de la fidélité, de la bonté de Dieu, de sa provision pour son peuple, de sa grâce, de sa bénédiction. Et je voudrais que, quand on va célébrer notre inauguration, on ait toutes ces pensées en tête. Dieu nous a bénis. Oui. Mais pas à cause de nous. Il nous a bénis malgré nous. Il nous a bénis à cause de Jésus et à cause de son obéissance. Et puis la bénédiction, il se trouve que elle se fait aussi dans l'opposition. On pourrait dire, ça marche toujours de pair. Quand il y a la bénédiction, il y a aussi l'opposition. Regardez dans ce passage. Verset 12, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Vous vous rendez compte à nouveau de ça? Il vient de décrire son péché. Il vient de décrire qu'il n'a pas vraiment confiance dans la promesse de Dieu. Il vient de montrer qu'il est lâche, qu'il est craintif, etc. Et Dieu le bénit. Verset 13, « Cet homme devint riche et il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menus, de gros bétail, un grand nombre de serviteurs, aussi les Philistins lui portèrent envie. » Les Philistins sont jaloux et ils s'opposent à lui, ils essayent ils rebouchent ses puits. Et puis Abimélec fait venir à Isaac et lui dit « Écoute, va-t'en de chez nous parce que tu es beaucoup plus puissant que nous. » Imaginez la confession qu'il est en train de faire. Vous savez, Dieu peut nous bénir matériellement. Mais Dieu ne le fait pas systématiquement de cette manière. On trouve aussi que Dieu bénit son peuple dans la pauvreté. Souvenez-vous de Naomi et Ruth. Elles n'ont plus rien. Les deux sont veuves. elles sont dans le plus grand dénuement. Et dans leur dénuement, Dieu va les bénir. Et va les bénir par un époux, va les bénir par un fils qui donnera naissance par la suite au roi David et à la lignée de Jésus-Christ. Dieu peut bénir au travers de la maladie. Souvenez-vous de Job. La grande bénédiction de Job lui est parvenue pendant la maladie, pendant qu'il était dans une grande souffrance. Dieu peut nous bénir au sein de la détresse. La grande bénédiction qui est arrivée à Joseph, c'était quand il était emprisonné et oublié. Dieu nous bénit aussi dans ces choses. La jalousie des Philistins, parfois nous la connaissons, c'est une jalousie qui peut nous faire faire des choses complètement stupides. Par exemple, comme les Philistins ici, ils ont privé les autres de la bénédiction. Mais ça n'apaise pas notre soif de priver les autres de l'eau. L'eau était si précieuse dans cette région, dans cette époque, et cette époque, que les puits étaient essentiels. Combler le puits de quelqu'un était désastreux pour son propriétaire et c'était considéré comme un délit. Ça constituait souvent une déclaration de guerre. Et Isaac aurait pu riposter, puisqu'il était plus puissant que tous. Mais il creusa plutôt de nouveaux puits. Et on est venu lui disputer encore ce puits. Alors il en a creusé encore un autre. Et on est venu encore lui chercher des noises pour ce puits. Alors il a continué plus loin et il est allé trouver un autre puits. Il l'a appelé du nom de Rehoboth, car l'Éternel nous a mis au large, dit-il. En fait, les Philistins, ils veulent sans cesse ce que Isaac possède. Ils pensent qu'il ne possède que des puits. Mais Isaac a bien plus que des puits, il a l'eau vive. Il remonte alors à Beersheba et l'Éternel lui apparaît de nouveau. Et lui dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se fait dans le cœur d'Isaac. Il bâtit un autel et il invoque son Dieu. Et puis il creuse des nouveaux puits. La bénédiction, ça ne signifie pas l'absence d'opposition. Ce que je remarque ici, c'est que Dieu rend Isaac bon en le bénissant. Et donc la bénédiction, c'est que Dieu fait de lui un homme pacifique. Il réagit conscient que c'est Dieu qui pourvoit à l'eau pour lui, pour tout son bétail et pour ses gens. Et il s'attache de plus en plus à Dieu qui bénit, plutôt qu'aux bénédictions de Dieu. La bénédiction ici, c'est qu'au travers de l'adversité et de l'opposition, Dieu transforme nos cœurs. Il poursuit son œuvre. Gardez ça à l'esprit. Vous allez connaître de l'opposition, vous en connaissez peut-être. Dieu est à l'œuvre dans l'opposition et il transforme nos cœurs. Et ça, c'est la bénédiction. Il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il transforme nos cœurs. Il les pacifie. Il les rend plus semblables à Jésus-Christ. Et ça, c'est la bénédiction. Enfin, la bénédiction est partagée. Cette fois, c'est Abimélec qui part avec les hommes, avec ses hommes, et il rend visite à Isaac. Au départ, Isaac est un peu sous tension. Il craint qu'il vienne encore lui chercher des histoires. Et puis, en fait, ils disent, verset 28, « Nous croyons que l'Éternel est avec toi. Nous reconnaissons que l'Éternel est avec toi. » Et ça, c'est la bénédiction. Ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas empêcher la bénédiction de l'Éternel sur Isaac. Et du coup, ils demandent à signer un traité de paix. Et après cela, l'eau jaillit encore à nouveau du puits et que les serviteurs étaient en train de creuser. Il l'appelle ce puits le puits Sheba, de Beersheba, comme son père l'avait nommé, Abraham, en Genèse 21. Si vous regardez Genèse 21, 20 et 21, et puis Genèse 26, c'est les mêmes histoires qui arrivent à Abraham, arrivent à Isaac. Et pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Pourquoi il y a toute cette répétition? Des fois même, je me mélange entre les passages. Pourquoi? Parce que Dieu veut montrer ici que la bénédiction d'Abraham, c'est aussi la bénédiction d'Isaac. C'est la même promesse auquel qu'il bénéficie. La seule option pour les Philistins, c'est de rechercher la paix, de la partager, de partager la bénédiction. Et donc, en réponse à la jalousie et à l'hostilité du monde envers la bénédiction de Dieu, le peuple de Dieu doit garder sa confiance dans la promesse. Et la promesse, c'est sa présence, c'est sa provision. Gardez ça à l'esprit. Dieu nous bénit pour qu'on puisse bénir les autres. Et donc, pensez à cette vérité si forte, je trouve. Dieu nous bénit, mais il nous bénit pour bénir les autres. Et Isaac, là, il est magnanime, il accueille, il fait un festin, il partage, il répand la bénédiction sur les Philistins, et ils sont en paix. Oui, nous faisons bien de rechercher la bénédiction de Dieu. Elle se manifeste aussi dans les épreuves. La bénédiction de Dieu, c'est d'être choisi de Dieu, de sorte que c'est par grâce et non en réponse à nos mérites. La bénédiction de Dieu, elle vise la transformation de nos cœurs. Ça, c'est la plus précieuse des bénédictions, être transformé à la ressemblance de Jésus-Christ. La bénédiction, c'est quand Dieu est avec nous. Quels que soient les jours d'opposition, de difficulté, Dieu est avec nous. Et puis la bénédiction, c'est aussi de la partager avec les autres. Elle ne nous a pas été donnée pour la garder pour nous-mêmes, mais pour la répandre autour de nous.